Bonjour la Terre au Carré, c'est Marie de Quimperlé en Bretagne. En ce jour de publication par Greenpeace de son rapport s'intitulant « Comment les lobbies de la viande nous manipulent », je voulais exprimer mon immense tristesse face à une décision portée avec fierté par le maire de la ville. C'est celle de construire un échangeur routier complet pour répondre notamment à une attente de l'immense abattoir local situé à proximité. Travaux à 2,2 millions d'euros. Alors viande plus transport routier, on est vraiment en phase avec des enjeux environnementaux. Et je rajouterai que le maire de la ville est également le vice-président en charge du climat et de la mobilité à la région. Dans ces conditions, il est vraiment difficile de garder une petite part d'optimisme. Dans tous les cas, merci la Terre au Carré, car vous me faites vraiment du bien.
Bonjour Camille, bonjour Mathieu, c'est Yvan d'Angers. Donc c'était par rapport à la protection des troupeaux. J'ai un ami qui a un Irish Wolfhound, qui est une sorte de grand lévrier très rustique, qui a la taille d'un Danois à peu près, avec une gueule qui s'ouvre, vous pouvez mettre votre tête dedans, et qui étant très haut et très rapide, rattrape les loups, les attrape par le cou, les secoue, et hop, il les tue net. Donc voilà, avec trois de ces chiens, un troupeau est bien défendu, surtout que s'il y a un loup ou deux qui sont descendus dans la meute, à mon avis... Les autres vont réfléchir et vont peut-être pas revenir à cet endroit-là. Voilà, au revoir.
Bonjour à tous, je suis Kaki du Puy-de-Dôme. Ça y est, je craque. Voilà ce qui m'amène. J'habite à la campagne. Je fais tous mes déplacements de moins de 20 km à vélo sans assistance. Quand je vais en ville en voiture, je ne peux pas emprunter un vélo de location. Pourquoi ? Je vous le donne en mille. Eh bien, c'est juste parce que je n'ai pas de smartphone. Donc, pas d'appli. Pourquoi ? Pour des raisons de convenance personnelle d'abord. Ensuite, pour toutes les raisons qu'ont évoquées les spécialistes des mines qui étaient vos invités passionnantes il y a peu. Donc, pas de vélo en ville pour moi. D'accord, je veux bien que ce soit moi qui ai tort de ne pas avoir de téléphone compatible avec les applis, mais que l'on ne nous dise pas que l'on souhaite limiter les déplacements en voiture. Car ça, c'est se moquer de moi. Et franchement, c'est pas sérieux. Accessoirement, j'apprécierais aussi que des vélos sans assistance électrique existent en location, tant qu'à faire les choses bien jusqu'au bout. Bonne continuation à vous qui m'enrichissez et à votre répondeur. Salut !
Elisabeth de Strasbourg. Bonjour la Terre au Carré. Vive les contradictions, détendre l'atmosphère anxiogène. Oui, tant mieux. C'est pour ça que je continue à vous écouter, même si je suis loin d'être toujours d'accord avec vous. Bonne humeur et coupure insupportable pour certains. Oui, 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 dans ce monde de brutes. Merci, bonne journée.
Salut Nicolas de Marseille. Mais c'est quoi tous ces gens qui vous appellent pour vous dire arrêtez de passer de la musique pendant l'émission ? Alors bon, déjà, peut-être qu'ils ne sont pas posés la question, mais ça fait peut-être du bien aux invités d'avoir une petite pause pendant l'émission pour discuter à bâton rompu entre vous. Et surtout, la musique vous plaît pas ? Mais alors les gars, ça va, vous vous posez 2 minutes, vous écoutez. Donc c'est ça aussi la biodiversité, merde. Un peu d'ouverture, quoi, de calme, enfin bref, voilà quoi. Allez, salut à tous.
Voilà, c'est aussi ça le répondeur de la Terre au Carré. Voilà, un lieu d'échange entre les auditeurs de l'émission. Si vous aussi vous souhaitez entrer dans la communauté des terriens et des terriennes, eh bien n'hésitez pas à laisser nous votre message 01 56 40 45 45. On l'appelle la Twilight Zone, la zone crépusculaire. Il s'agit d'un univers de pénombre situé dans les profondeurs de l'océan et c'est là, entre 100 et 1000 mètres de profondeur, que se déroule chaque jour la plus importante migration animale de la planète. Car malgré la pénombre, l'endroit grouille de vie avec de multiples espèces qui se sont adaptées à cet environnement hostile. Cette couche océanique représente un écosystème à part donc et elle joue un rôle majeur dans le cycle mondial du carbone. En mai prochain, des scientifiques lancent une grande expédition scientifique en mer du Labrador pour mieux connaître cet endroit qui reste donc encore mystérieux. À l'aide de robots sous-marins, ils vont donc étudier cette partie de l'océan et son plancton pour comprendre comment elles réagissent au réchauffement climatique. La Terre au Carré vous emmène donc cet après-midi dans la zone crépusculaire de l'océan. Et pour en parler, nous sommes en studio avec l'océanographe Hervé Claustre et l'écologue Sakina Dorothée Ayata. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bienvenue. Hervé Claustre, vous êtes directeur de recherche CNRS Sorbonne Université au sein du laboratoire de Villefranche-sur-Mer. C'est vous qui êtes le responsable du programme européen REFINE, qui part donc en mai en mer du Labrador. Sakina Dorothée Ayata, vous êtes maîtresse de conférence en écologie marine à Sorbonne Université, spécialiste du plancton au sein donc de l'Océan, le laboratoire d'océanographie et du climat. Et puis nous sommes en duplex de France Bleu Azur à Nice avec vous, Lionel Guidi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes océanographe et biologiste dans ce laboratoire de Villefranche-sur-Mer et vous avez mis au point le Facebook des planctons que vous allez bien sûr nous présenter. Allez, on se retrouve dans un instant pour cette plongée donc dans les profondeurs océaniques et vous allez répondre aux messages des auditrices et des auditeurs qui en rejoignent à la fois sur la page de la Terre au Carré, mais aussi sur les réseaux sociaux et l'appli mobile France Inter avec vos messages vocaux. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. J'ai trop hâte d'ajouter un ami Facebook plancton.
Mais oui, 14h30, on passera au vert avec vous.
Rien à voir, je suis allée du côté d'Argenteuil où certains crient et disent non à la bétonisation pendant que le maire réfute toute artificialisation, vous entendrez.
Et bien voilà pour le sommaire de l'émission réalisée par Valérie Ayestara et préparée par Chantal de Montagny aujourd'hui avec à la technique Maxime Goudard.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Sans l'océan, on ne serait pas là aujourd'hui, hein, donc on lui doit tout, hein, parce que la vie a démarré il y a 3 milliards et demi d'années dans l'océan. Hein, on a l'habitude de voir des grands mammifères, on a raison d'être passionné par les grosses espèces qu'on trouve dans l'océan, mais il ne faut jamais oublier que derrière ça, il y a la face cachée, qu'on appelle le plancton, qui est microscopique, invisible, et c'est passionnant quand on rentre dans ce monde-là, c'est merveilleux, quoi.
Voilà, il s'appelle Pierre Molot, il est spécialiste du plancton, et on vous emmène justement aujourd'hui dans la zone crépusculaire de l'océan pour en parler avec vous, donc Hervé Claustre. Alors en mai prochain, donc, il y a cette expédition en mer du Labrador, mais entre autres, hein, parce que vous allez partir sur plusieurs océans du monde, vous allez embarquer donc des robots sous-marins pour observer donc cet endroit particulier de l'océan. Alors c'est quoi cette zone crépusculaire exactement ?
En fait, la zone crépusculaire, on peut la démarquer d'une certaine façon par rapport à la couche supérieure de l'océan, qui est la zone éclairée de l'océan. C'est celle où il y a les rayons du soleil qui pénètrent suffisamment pour permettre la photosynthèse du plancton végétal, donc ouais. On appelle phytoplancton. Et en dessous de cette couche, quand il n'y a plus de photosynthèse, entre 100 et 1000 mètres, approximativement, ça dépend d'une certaine façon des océans, mais on a tout un écosystème qui se développe dans la pénombre, et finalement qui dépend pour sa survie de tout ce qui tombe du haut et qui est synthétisé par le phytoplancton et toute la vie et les écosystèmes qui est en surface. Donc c'est une zone crépusculaire, je dirais, par sa nature, parce qu'elle reçoit peu de photons lumineux, mais aussi d'une certaine manière qui est une zone du coup inconnue, parce qu'elle a échappé longtemps aux façons d'observer l'océan et d'observer en profondeur. On a toujours été plutôt tenté par le vivant que l'on voyait à la surface, y compris des satellites qui observent la surface de l'océan. Et donc c'est une zone qui est complètement, d'une certaine façon, relativement méconnue. Ouais. Presque, c'est une zone qui demande beaucoup d'exploration.
Voilà, donc peu explorée jusqu'à maintenant. Mais il y avait vraiment des difficultés technologiques qui pouvaient expliquer qu'on y soit peu allé jusqu'à maintenant, ou pas ?
Je dirais du...
Parce qu'entre 100 mètres, bon, ça c'est pas si profond que ça, jusqu'à 1000 mètres, d'accord, mais on est allé encore plus profond quand même.
Oui, on est allé plus profond, on est allé jusqu'au dorsal océanique et on est allé avec des robots dédiés observer ce qui s'y passait. Mais c'est un grand milieu vide où il n'y a pas grand-chose dedans, donc il n'y avait peut-être pas les outils d'une certaine façon pour observer et explorer. Et puis naturellement, je pense que le biologiste, il est intéressé par le vivant qu'il voit vraiment en surface. Ouais. Donc de nouveaux outils ont permis de se poser de nouvelles questions par rapport à ce qui se passait dessous, sous la surface.
Ouais, c'est donc ça, même dans l'obscurité, en fait, ça grouille de vie, hein, on pourrait dire les choses comme ça. Mais c'est une vie qui nous est totalement étrangère.
Ouais, on commence progressivement à découvrir.
Ouais. Quel genre d'organisme alors est-ce qu'on peut croiser dans cette zone crépusculaire, Sakina Dorothée Ayata, à part le plancton, parce qu'on va en parler évidemment, mais on croise aussi des poissons quand même dans cette zone, hein.
Oui, on croise effectivement également des poissons. En fait, c'est une zone où ça va correspondre à une très très grande part des océans. Donc finalement, c'est un endroit où il y a plein d'organismes. Comme l'a dit Hervé, on les connaît encore très très peu. Donc on va retrouver tous les organismes qui sont présents dans les océans, dans la mer, le plancton, les poissons, les mammifères marins, etc. Mais en fait, c'est vraiment une zone qu'on commence à peine à découvrir parce qu'elle était très très difficile d'accès. Et grâce au développement maintenant de nouveaux outils comme les robots que développe Hervé, on peut enfin avoir accès à cette zone qui restait mystérieuse.
Alors avec Claustre, vous dites qu'il s'y passe la plus importante migration animale de la planète dans cette zone crépusculaire. Mais c'est la migration de quels animaux ? Alors du plancton justement ou des poissons qu'on vient de décrire ?
Alors je dirais du plancton et des poissons. Par exemple, le krill fait partie du plancton. On a ces petits poissons lanternes qu'on a dans nos dans le livre d'enfant et qui nous a affolait avec la petite lanterne devant.
Ouais.
C'est des tout petits poissons d'une dizaine de centimètres.
Donc eux, ils font partie des migrations ?
Ils font partie de la migration et puis ils ont une biomasse, une quantité, il y a une quantité énorme. Et alors tous les jours, justement, ces organismes-là, ils ont des prédateurs. Et donc, entre guillemets, ils se cachent dans la journée, dans la zone crépusculaire, et profitent de la nuit pour migrer en surface, aller manger le phytoplancton pour ceux qui sont herbivores, ou des petits zooplanctons pour ceux qui sont carnivores. Et dès que le jour se relève, ils plongent à une profondeur où ils seront, a priori, ne seront pas vus par les prédateurs. Donc c'est essentiellement la lumière et le cycle lumineux jour-nuit qui permet d'une certaine façon de contrôler cette migration que l'on a partout.
Il y a des va-et-vient en fait.
Permanent.
Mais c'est une migration verticale si je comprends bien, c'est ça?
Complètement verticale.
Et donc ils vont se planquer parce qu'il n'y a aucun prédateur à ces profondeurs-là?
Si, il y a des prédateurs, mais comme c'est des interactions visuelles, donc les prédateurs, ils ne les voient pas.
Ah ouais, d'accord. C'est que visuel, les prédateurs ne peuvent pas sentir avec des ondes autrement, enfin...
C'est ce qu'on pense. Il y a de la chimie aussi dans des petits environnements qui font qu'il y en a qui détectent d'autres. Il y a aussi de la bioluminescence, c'est-à-dire qu'il y a des façons aussi d'envoyer de la lumière pour éblouir un prédateur. Enfin, il y a plein d'interactions qui sont à découvrir en fait. Donc on commence à peine.
Sakina Dorothée Ayata, vous vouliez réagir?
Oui, je voulais juste souligner effectivement, c'est pour les prédateurs visuels, c'est-à-dire que il y a des prédateurs qui peuvent aussi détecter la présence du plancton à travers les mouvements du courant. Là, c'est vraiment par rapport à... On peut imaginer un poisson, est-ce qu'il va voir ou pas sa proie? Dans la zone crépusculaire, il fait trop sombre, il ne pourra pas la voir. Donc c'est vraiment, on se cache, c'est un jeu de cache-cache par rapport aux prédateurs visuels. Pendant la journée, on va en profondeur où on ne sera pas vu. Et pendant la nuit, bah, comme il fait nuit en surface, on ne craint rien et on peut aller s'alimenter.
Lionel Guidi, donc si, on va en parler évidemment tout à l'heure en détail, mais votre Facebook des planctons, donc c'est vraiment autour de cette zone crépusculaire que vous venez de décrire là?
Non, le Facebook du plancton, on l'a créé à partir des données de surface qui étaient beaucoup plus nombreuses. Par contre, on l'a lié à ce qui se passe dans cette zone crépusculaire. Donc, comme le disait Hervé tout à l'heure, les organismes du fond dépendent de ce qui se passe en surface et de ce qui va couler dans la masse d'eau une fois que ça aurait été généré en surface. Et donc, ce qu'on a fait, c'est créer le Facebook du plancton. Donc, au final, c'est ce qu'on appelle les interactions entre les organismes du plancton pour savoir un petit peu quels sont ces communautés qui vont ensuite engendrer un flux de matière, donc des particules qui vont couler dans la masse d'eau pour aller nourrir les organismes profonds.
Et tout ça, évidemment, en rapport avec le réchauffement climatique. Ce sera l'objet, évidemment, de cette expédition. On va en parler en détail dans un instant et vous allez nous présenter vos robots, nouvelle génération, ces robots sous-marins qui permettent vraiment d'aller dans des zones qu'on connaissait si mal auparavant. Avec, bien sûr, les messages des auditeurs. Si vous souhaitez nous envoyer vos mails, c'est dès maintenant sur le site de la Terre au Carré. Voici Angèle et Damso et ses démons.
Enfin ça allait, confiante et peur de rien avant de tomber. On verra bien demain, mais ça plus jamais. J'ai pas l'air de m'en faire, mais si vous saviez comment c'est dans ma tête, ça me fait briller. L'angoisse me fait la guerre et part en fumée. Jour après jour je m'habitue à mes ennemis qui me tuent, et j'apprendrai toutes les vertus. Quand j'en attends, quand je suis déçu, mais grâce à ça, moi j'évolue. Comment faire pour tuer mes démons? Comment manger? Comment manger, m'en faire, j'ai plus de mots.
j'ai eu peur de s'il tombe. Comment faire pour te aimer tellement? Tu aimes tellement.
Démon, extrait de son dernier album Angèle et Damso sur France Inter.
La Terre au carré sur France Inter.
Comment vous nous parleriez du plancton ?
Alors je vous parlerai d'Héliosphéra, qui est une élégante radiolaire sphérique. C'est un peu comme une planète argent qui a de la dentelle translucide autour d'elle et qui doit, pour survivre, être entrée en symbiose avec une micro-algue, donc du règne végétal, comme si ça se mariait. Et j'adore ça, voilà, ces deux êtres fondamentalement différents qui doivent se trouver pour vivre et vivre plus longtemps. En fait, ces deux filles, Héliosphéra et Xanthelle, c'est beau quand même, non ?
Le poète Wilfried N. Sondé, qui est ébahi par cette symbiose, extrait d'un podcast, un hublot sur l'océan de la fondation Tara Océan. On parle donc de cette expédition en mer du Labrador pour aller étudier donc cette zone crépusculaire, on le disait, où il y a beaucoup de plancton, des interactions entre les zones de surface et les profondeurs, entre 100 et 1000 mètres, avec nos invités. Sakina Dorotayata, un commentaire sur ce qu'on vient d'entendre, là, sur cet organisme?
Eh ben, effectivement, Héliosphéra, ça va être un organisme plutôt animal, qui va avoir à l'intérieur de sa propre cellule une cellule photosynthétique. Ça lui permet de s'alimenter. C'est la vie en symbiose qui est très courante également dans les océans et dans le plancton.
Ouais. Et alors le plancton, justement, il faut quand même en dire un mot tout de suite. C'est-à-dire qu'on a à la fois le monde animal et le monde végétal qui est représenté. Hein.
Alors le plancton, la définition, c'est tout ce qui est transporté de manière passive par les courants. Donc ils ne peuvent pas nager contre les courants. En revanche, ils peuvent contrôler leur migration verticale, leur flottabilité et être plus ou moins en surface ou en profondeur. Dans le règne planctonique, en général, on distingue le phytoplancton et le zooplancton. C'est un peu traditionnellement les végétaux, les animaux. Mais maintenant, on sait très bien qu'il y a aussi tout un pan d'organismes planctoniques qui sont mixotrophes, à la fois animaux et végétaux, si vous voulez, capables de réaliser la photosynthèse. Et donc, ce radiolaire avec une micro-algue symbiotique fait partie des mixotrophes.
Ouais. Et le plancton dans les océans, alors ça joue quel rôle exactement ? Parce que c'est un rôle considérable, justement.
Alors le plancton, il a de nombreux rôles. D'une part, il va assurer la photosynthèse, donc produire de l'oxygène, produire la moitié de l'oxygène produite sur Terre.
Oui, mais quand même, oui.
Il va réaliser...
C'est pas rien. Donc, on le dit en passant comme ça, mais...
Ouais. Juste la moitié. Voilà. Il va également produire la matière organique, qui va être à la base des réseaux trophiques marins, donc c'est ça qui va alimenter les réseaux trophiques, les poissons et donc ultimement les pêcheries et les populations côtières qui dépendent de la pêche pour survivre. Et ça va également contribuer à la régulation du climat via l'export de carbone.
Alors c'est-à-dire, oui, qu'est-ce qu'on entend par là exactement ? Alors sur le cycle du carbone, ça joue quel rôle ?
Eh bien, plus le carbone va être libéré dans l'atmosphère par les activités humaines, plus il va se dissoudre dans l'océan. Il y a une partie de ce carbone qui va être transféré par la pompe biologique physique et une partie qui va être prise en charge par la pompe biologique du carbone, qui va consister finalement à la fixation de ce carbone dissous inorganique sous forme organique, qui va être exporté par les océans lorsque ces organismes vont mourir, par exemple, ou vont sédimenter.
Donc c'est une sorte de piège, on peut dire les
choses
comme ça.
C'est une piège au carbone, puisque ce carbone organique va se retrouver au fond des océans, où il va pouvoir passer un très grand temps et donc être séquestré à l'échelle des temps géologiques.
Et avec Klaus, pourquoi il faut partir par exemple en mer du Labrador pour étudier alors ces planctons dans la zone crépusculaire ?
Alors, la mer du Labrador, elle est assez emblématique parce que c'est une mer où, au printemps, on parle de la floraison du plancton. C'est comme les prairies chez nous qui fleurissent. Et là, il y a un développement du phytoplancton qui est colossal. C'est certainement la floraison la plus importante que l'on peut voir dans l'océan et qui est notamment observée par les satellites où on voit la couleur de l'eau qui prend sa teinte verte très caractéristique de la chlorophylle portée par le phytoplancton. Donc il y a beaucoup, beaucoup de matière végétale qui est produite. Donc c'est une concentration, si vous voulez, d'une certaine façon, d'organismes zooplanctoniques qui viennent manger. Et à ce moment-là, les organismes zooplanctoniques produisent ce qu'on appelle les pelotes fécales, leur déjection. Et c'est ça le vecteur de la pompe biologique de carbone, c'est-à-dire qu'on compacte le phytoplancton qui fait quelques dixièmes ou centièmes de millimètres en des particules plus grosses qui vont sédimenter très vite.
Mais pourquoi, pardon, à cet endroit précis, pourquoi pas dans une autre mer du globe ?
Oui, alors justement, ça dépend de la circulation océanique des courants qui vont créer plus ou moins les conditions favorables. Le phytoplancton, pour pousser, il a besoin de la lumière qui vient par le haut et il a besoin des engrais qui viennent par le bas. Les engrais, c'est des nitrates, des phosphates, des silicates. C'est pas des polluants. Dans l'océan ouvert, le nitrate est un fertilisant de la matière vivante. Et donc, en surface, on a dans la mer du Labrador, on a les conditions hyper favorables
entre la lumière et les nutritifs.
Donc on est entre le Canada et le Groenland, pour
exactement.
Bien situé.
Exactement. Et donc là, il y a cette floraison avec beaucoup de plancton. Et donc à ce moment-là, on a une forme de... Le carbone, comme on a expliqué ça, qui n'a de CO2, il est transformé en matière vivante par la photosynthèse, c'est mangé par le zooplancton. Et ça tombe.
Et est-ce que la température de l'eau a une influence sur le plancton ou est-ce que pour lui c'est pareil qu'elle soit à 2 degrés ou à 30?
Et sur la floraison, parce que je me pose la même question sur la floraison.
C'est une très bonne question. Pourquoi ça intervient au printemps? En hiver, ça ne peut pas intervenir parce que la mer du Labrador, c'est une mer où il y a énormément de tempêtes. Donc les eaux sont brassées de la surface qu'à 2000 mètres de profondeur, vous avez des températures de 6-7 degrés. Et donc au printemps, le réchauffement permet la couche superficielle de se chauffer. Et on a ce qu'on appelle une stratification, où on a les eaux chaudes. Chaudes, ça va être à peine une dizaine de degrés ou 8 degrés, mais qui sont suffisantes parce qu'elles sont stables. Et c'est-à-dire que ce qui est important, c'est que cette chaleur, elle confine le phytoplancton à la surface où il va pouvoir bénéficier de la lumière.
Donc il n'y a pas de variation de température, mais finalement la température, je reviens quand même à ma question initiale, est-ce que, même si là vous dites c'est le top des conditions, la mer du Labrador, est-ce que une eau plus chaude à 20, 25, parfois 30 degrés, c'est pareil en fait.
Alors, le paradoxe, c'est que les eaux chaudes, c'est par exemple dans les tropiques, mais là, il n'y a pas l'engrais.
Il n'y a pas les nutriments dessous.
Très peu. Ah ouais. Donc, on a des déserts biologiques, d'une certaine façon. Donc, c'est ce contraste de recherche de conditions favorables entre la lumière par le haut et les éléments fertilisants par le bas.
Et avec l'Ostre, donc, vous allez mener plusieurs campagnes à différents endroits du globe, justement, pour essayer d'avoir une carte, un maillage sur précisément tous ces mécanismes que vous venez de nous décrire là.
C'est ça.
Donc, vous commencez par le Labrador, ensuite, il y aura l'océan Indien.
Tropical. Ensuite, on ira au sud du... On ira ensuite au sud du Pacifique, à partir de Tahiti. Et puis, on ira dans l'océan Austral, à partir des îles Kerguelen. Et l'année prochaine, on ira en Arctique, où on déploiera nos flotteurs, y compris sous la banquise.
Et vous attendez donc à voir plein de différences, évidemment, suivant les lieux?
C'est exactement l'intérêt du projet, c'est d'avoir les mêmes systèmes d'observation, on parlera des robots peut-être tout à l'heure, mais dans différents endroits. C'est-à-dire qu'après, les bases de données qu'on va récupérer, on dit pour nous qu'elles sont interopérables, c'est-à-dire qu'elles sont acquises de la même façon, mais dans plein d'endroits différents. Donc cette diversité d'endroits représentatif un peu de l'ensemble de l'océan, qui fait un peu la force de l'utilisation de ces robots.
On parlera tout à l'heure avec vous, Lionel Guidi. On ne vous oublie pas de la pompe biologique, justement, pour voir comment tout ça permet de séquestrer le carbone dans l'océan, mais précisément les robots et les flotteurs. On va en discuter tout de suite, puisque vous allez les installer donc en mer du Labrador. Cet endroit, donc, entre le Canada et le Groenland. On va entendre l'ingénieur Christophe Penker, qui nous en dit plus sur ces flotteurs. C'était à l'occasion d'une autre mission qui s'appelait SOCLIM, et c'était en 2019, et vous la connaissez bien.
On a le tube d'aspiration de l'eau. Ensuite, à l'intérieur, c'est là qu'il va mesurer la salinité et la température. Et là, on a le capteur qui va mesurer la pression. Ensuite, on va avoir deux capteurs sur chaque extrémité du bras. Ici, ça va mesurer la quantité de lumière qui arrive dans la mer. Et on a un dernier capteur qui, lui, en fait, va mesurer la quantité de phytoplancton qu'il y a dans l'eau.
Vous êtes prêts, là? On commence la séquence dans 2 minutes, à peu près, 2 à 5 minutes.
J'aime bien m'assurer, en fait, de les voir plonger petit à petit. La phase du début est assez lente, et on peut voir de moins en moins, en fait, le flotteur, et à la fin, on voit juste un bout de l'antenne, avant qu'il parte vraiment...
Dans les profondeurs. Voilà, pour terminer la phrase de Christophe Penker, donc ingénieur, une vidéo du Blob en mars 2019. Et donc finalement, avec l'Ostre, votre technique, elle est identique. Hein, c'est les mêmes flotteurs qu'on utilise aujourd'hui?
C'est les mêmes flotteurs, sauf que depuis 2016, la technologie a progressé. Donc, ils font encore plus de choses, peut-être un petit peu mieux. Ils permettent d'explorer plus de variables, c'est-à-dire de caractériser mieux l'environnement, et en particulier, on va adjoindre à ces flotteurs, on va adjoindre un système de caméra qui va prendre des photos du plancton, des particules. Je pense que Lionel, qui est dans l'équipe qui a développé cette caméra, pourra développer les potentialités de ce système. Et donc, on associe un porteur, un robot, avec un système d'imagerie qui est la première fois pour l'observation in situ dans le milieu naturel du plancton.
Lionel Guidi, quand on dit prendre des photos, je crois que c'est un album très 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 épais de photos de plancton.
Ouais, effectivement. Donc c'est ce qui est très intéressant, c'est que le Facebook du plancton, on a utilisé les mêmes caméras en fait pour calculer ce flux de matière qui va vers le fond et le connecter au plancton de surface. Et ici en fait, ces caméras sont des caméras un peu plus miniatures qu'on peut mettre maintenant sur les flotteurs que déploie Hervé pour justement obtenir des millions d'images de particules et de plancton et sur lesquelles on va utiliser des méthodes d'intelligence artificielle pour arriver à reconnaître ces objets de façon assez précise. Avec une incertitude, bien sûr, hein, parce que l'intelligence artificielle, c'est artificiel, donc c'est pas magique. Ouais. Et donc, on va créer ces bases de données de référence pour pouvoir ensuite annoter le plancton, donc mettre un nom sur tous les objets que la caméra va voir.
Mais est-ce qu'on peut seulement décrire le plancton, Laurent Guidi? Ça ressemble à quoi? Ça mesure enfin, on peut même pas savoir combien ça mesure, tellement c'est petit, non?
Si, justement, ces caméras sont adaptées à regarder les objets de la taille du plancton, donc de quelques centaines de microns à quelques millimètres. Et par reconnaissance automatique, de la même façon que l'algorithme de Facebook va identifier votre visage ou celui de votre parent ou de votre enfant sur les photos, on peut faire la même chose sur les objets planctoniques ou les particules et donc mettre un nom dessus. Et c'est à partir de ces reconnaissances qu'on peut construire des réseaux d'interaction de plancton, etc., ou des données génomiques, mais ça on en parlera sûrement plus tard, pour ensuite connecter ces objets, donc ce plancton, à d'autres phénomènes, donc en particulier la pompe biologique, le flux de carbone.
Donc c'est votre réseau d'amis, vous, finalement, les planctons?
C'est pas très sociable, effectivement, mais c'est mon réseau d'amis, ouais.
Mais on sait combien il y en a d'espèces de plancton ou pas?
Je pense que Sakina pourra répondre plus facilement que moi à ça, mais en tout cas, oui, on est capable de mettre des nombres aujourd'hui à l'aide de données, en particulier de la génomique.
Alors, Sakina Dorothée Agata.
Alors, par exemple, sur le plancton qui est eucaryote, pas les bactéries, mais tout le plancton qui a des cellules comme les nôtres avec un vrai noyau, eh bien, on sait qu'on a pu documenter, grâce aux données de Tara Océan, plus de 160 millions de gènes eucaryotes. Ouais. Donc, en fait, c'est énorme. Parmi ces gènes, il y en a beaucoup qu'on connaît pas, on sait pas à quoi ils servent, on sait pas à qui ils appartiennent. Donc, on sait que c'est très, très, très diversifié et reste encore, décrire et à mieux comprendre ces organismes.
Allez, on revient vers vous dans un instant. Il y aura des questions de la part des auditeurs et puis bien sûr, nous verrons quel est le rôle du plancton et l'incidence évidemment du réchauffement climatique.
France Inter. La Terre au carré.
14h32, Camille, passe au vert.
Et le soleil brillait hier en région parisienne. Donc après l'émission, je suis allée profiter de la belle lumière du côté d'Argenteuil, qu'on connaît et qu'on a admiré aussi, bien sûr, en regardant les célèbres tableaux des impressionnistes. Alors, je ne fais pas que vous raconter ma vie. J'avais en fait rendez-vous à Argenteuil, d'ailleurs à quelques mètres de la maison de Claude Monet et de la Seine.
Il y a encore des vestiges notables dans tout cet espace-là du paysage qu'ils ont pu connaître et peindre.
Les sirènes de pompiers en moins. Alors c'est Dominique Mariette qui parle, professeur d'histoire géo à la retraite, qui a grandi à Argenteuil, militant lutte ouvrière, je le précise, et défenseur du lieu sur lequel on se trouve, l'île Héloïse, avec sous nos yeux
des platanes centenaires, et puis de la verdure partout.
Mais
tout cela, eh bien, sera ratiboisé, remplacé par ce que j'appelle un blocos.
Alors officiellement, le projet s'appelle les promenades d'Argenteuil. Et Claudine Casals, autre opposante à la tête du comité Jean Villard, le nom d'une salle de spectacle qui va elle aussi être rasée. Eh bien Claudine, elle vous fait son tableau.
Ils vont mettre un multiplex de 40 mètres de haut. C'est-à-dire, c'est à peu près 13 étages. Puis une salle de spectacle, un centre commercial et 3 tours d'appartements de 30 mètres de haut, 156 appartements.
Donc là, il va y avoir du béton à la place de tout ce qui est
partout. Il y a aussi l'abattage de 56 arbres, alignés, magnifiques, des platanes qui ont plus de 100 ans, je pense.
Donc tous ceux qui sont autour de nous.
Alors voilà, en particulier les gros là. Vous voyez, ils sont alignés, ils sont là depuis très longtemps.
Privation d'un poumon vert, disent-ils, et pollution supplémentaire à venir avec les voitures qui fréquenteront le site. Yvon Huibon manifestera ce samedi avec les opposants d'une dizaine d'associations, dont celle dont il est membre, Asparagus.
On va construire un projet complètement déstructurant de ce lieu, qui est climaticide en plus, puisque en fait on va abattre du végétal. On a besoin de plus de végétal par rapport à ce qui nous attend en termes de réchauffement climatique. Ça fait partie des grands projets inutiles, comme on a pu le voir à Notre-Dame-des-Landes, comme on a pu le voir à Europa City. Alors celui-ci, il n'a pas du tout la même envergure que ces projets-là, mais c'est quand même, ça part quand même de la même réflexion de décideurs qui n'ont pas bien intégré ce qu'est le changement climatique, en fait, et ce vers quoi on va. Et c'est ça qui, moi, me fait peur. Enfin, ça n'a aucun sens de construire quelque chose d'aussi peu dans l'air du temps, quoi.
Mais le maire LR d'Argenteuil, Georges Mautron, qui a validé la cession du site à un promoteur immobilier, Fiminco, et qui a aussi signé le permis de démolir le 26 novembre dernier, le maire, donc, n'est pas d'accord du tout. J'ai pas pu le voir hier après-midi, mais je l'ai eu au téléphone tout à l'heure.
Toutes les actions que l'on fait depuis déjà quelques années vont dans le fait de retrouver la Seine, et notamment, donc, cette quatre voies qui nous coupe va être transformée en boulevard urbain, avec des pontons qui seront en bord de Seine, avec des capacités de circulation lente, piétonne et cycliste en bord de Seine, ce qui est absolument totalement inimaginable à l'heure actuelle.
Mais moi, je vous parle du complexe avec le multiplex, les appartements, etc.
Mais ce n'est qu'une partie, ça.
Mais qui va raser notamment des arbres et tout un îlot de verdure.
Non, mais jamais de la vie.
Aucun.
Et si, quelques-uns.
Combien?
J'en sais rien, j'ai pas de nombre là, mais ce que je peux vous dire, c'est que le projet comportera beaucoup plus de végétaux qu'ils n'ont à l'heure actuelle.
Alors, il m'a fait envoyer dans la foulée tous les détails du projet. 40 000 m2, dont 9 745 m2 précisément d'espace vert et plus de 3 000 de terrasses végétalisées.
Ils nous disent, mais il y aura de la verdure, oui, dans des pots.
Alors Dominique Mariette, l'un des opposants, exagère un petit poil, mais pas totalement, hein, puisque je continue de lire le document que la mairie m'a envoyé. 108 arbres vont être coupés, 3 platanes en fait vont être conservés. Des platanes que Monet n'a jamais vues, précise le maire, ils dateraient de la Seconde Guerre mondiale. Et 224 replantés, dont 20 seulement à grand développement, comme on dit. Niveau procédé constructif, le document écrit 100% béton sur une parcelle de toute façon déjà largement artificialisée, dit Georges Mautron, qui rejette donc aussi cet argument. La construction, quelle qu'elle soit, d'un immeuble de 30 mètres, de 40 mètres, c'est une artificialisation des sols. Est-ce qu'aujourd'hui...
Non, c'est faux. L'artificialisation, c'est ce que vous avez à l'heure actuelle. Vous avez affaire à une bande que je connais bien, ils sont gentils d'ailleurs, de 68 arts qui sont bloqués à la salle Jean Villard livrée il y a 50 ans. Le but, c'est de faire en sorte que le chaland argenteuil revienne sur Argenteuil, que ce soit pour du loisir ou de la culture, mais que ce soit aussi pour la diversité de commerce.
Il défend donc ce qu'il appelle le renouveau de l'île Héloïse, mais Claudine Casals n'y va pas par quatre chemins.
Ils se sont complètement foutus de notre gueule.
Voilà, c'est de la vie à tous les sens du terme qui va disparaître pour eux.
C'est pas simplement défendre des arbres, des paysages, des patrimoines, mais tous ces éléments qui sont vécus et qui demain, quand ils disparaîtront, eh bien, feront grandir les problèmes d'une ville qui n'a pas besoin de cela.
Au contraire, hein, vous l'aurez compris, pour le maire qui compte, lui, bien sur un début de travaux dès la fin de l'année.
Les platanes de Monet et sa petite bande de 68 arts. Donc c'était Camille Passauvert que vous pouvez bien sûr écouter sur franceinter.fr.
Hervé Claustre, ce genre de dossier hein, qui arrive partout, d'artificialisation des sols, qui touche aussi le bord de mer avec l'extension du littoral, ça a un impact aussi évidemment sur tout ce dont vous nous parlez depuis tout à l'heure.
D'une certaine façon, quand même, nous, on regarde l'océan global, je dirais que l'impact, il est sur la frange côtière et littorale. C'est des sujets que je ne connais pas bien.
Mais est-ce qu'il y a des effets dominos, par exemple?
Je dirais, les effets, ils sont plutôt les effets du changement climatique. C'est-à-dire que quand nos activités anthropiques libèrent du CO2 dans l'atmosphère, ça finit dans l'océan. L'océan capte 95% de la chaleur en excès qui est liée à nos activités humaines. L'océan perd de l'oxygène et l'océan prend du CO2 et s'acidifie. Donc, je dirais, l'ensemble des activités, je dirais, anthropiques...
Mais par exemple, construire, si je prends un dossier un petit peu brûlant en ce moment, une éolienne offshore, comme ça, en plein milieu de l'océan, alors c'est pas 1000 mètres de profondeur, hein, mais c'est quand même quelques dizaines de mètres de profondeur, est-ce que ça peut avoir un impact sur toute la vie autour?
Oui, certainement, il y a des études d'impact qui sont faites actuellement, justement, pour les organismes, pas planctoniques, mais les organismes benthiques, c'est-à-dire ceux qui vivent au fond. Le bruit, est-ce qu'il y a une perturbation de l'environnement acoustique, parce que l'océan, c'est un propagateur de sons incroyables. Donc, effectivement, je veux dire, il y a plein d'études préalables à mener pour comprendre comment ça fonctionne, parce que finalement, c'est pas grand-chose non plus sur ces impacts.
Sakina Dorothée Ayata, est-ce qu'on trouve du plancton dans la Seine de Monet à Argenteuil?
Oui, tout à fait. Le plancton, c'est
on parle que de l'océan depuis le début de l'émission, oui. Hein, mais il y en a dans l'eau douce aussi, alors.
Oui, tout à fait. Le plancton, il va être dans tous les cours d'eau. Ça peut être même des dans les rivières, dans les fleuves, dans les lacs, dans des petites mares, dans des petits lacs d'altitude sous la glace également, au niveau des montagnes. On en trouve partout, dans tout ce qui est...
On lui doit la couleur des eaux aussi, ou pas?
Alors la couleur des eaux, elle dépend de plusieurs choses. Il y a d'une part les particules, s'il y a de la poussière, du sable, de la terre. Mm-hmm. Et également les particules vivantes, le phytoplancton qui va plutôt être bleu. Parfois, si vous regardez au bord d'une rivière, sur le fond rocheux, on peut trouver un petit film marron. Ce sont des diatomées benthiques. Donc, ce qui va aussi avoir une couleur plus marron. Ces diatomées, on peut aussi les trouver dans les estuaires et qui peuvent avoir donné une couleur plus marron. C'est également lié au vivant.
Donc, Monet a peut-être peint du plancton sans le savoir. Allez, on
et
revient
les autres, il n'y avait pas que Monet. Hein.
On revient vers vous dans un instant avec d'autres questions des auditeurs de la Terre au Carré.
We die, this life isn't fair. I miss the high, I live a lie. And one day we'll die, no one will care. Take me inside, I'll meet you there. Stranger, it's clear I need you. The angels will fall, not a saint after all. Back to the wall, let me free you. Check me from evil, give me a reason. Where are the good people? Give us our freedom. Where are the dreamers? Can you show me the dreamers? And we are the creatures, prophets and teachers. We are believers, lost in amnesia.
C'était Mac Miller.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter. Le plancton est la base de
la spécificité de Tara Océan au point de vue scientifique, c'était vraiment d'essayer d'échantillonner tous les organismes marins dans la zone entre 0 et 500 mètres de profondeur. Les virus, les bactéries, les petits eucaryotes, puis des petits organismes jusqu'à quelques millimètres. Et à chaque fois de collecter en même temps les informations environnementales, c'est-à-dire la température, la salinité, puis certains paramètres comme l'oxygène. De bien connaître le plancton, ça permet d'avoir des indicateurs sur l'état des océans. C'est-à-dire qu'on sait que maintenant, avec ce qu'on a fait dans Tara Océan, on a un point de départ, un point zéro, qui va nous permettre, dans le futur, de suivre l'évolution de cet écosystème et voir comment il change, avec la pollution, bien sûr, mais aussi avec le changement climatique, avec les impacts environnementaux des hommes en général et tout ça.
Voilà, le biologiste Eric Arsanti, qui en 2009 participait à l'expédition Tara Océan. Et en 3 ans, 50 escales justement, eh bien, il a pu mesurer, entre autres, l'effet du réchauffement planétaire sur les planctons et les coraux. Et Sakina Dorothée Ayata, vous vous êtes beaucoup servi justement des données de Tara, c'est ça, pour étudier les planctons?
Alors effectivement, moi j'ai utilisé des données beaucoup issues de la génomique, donc le séquençage des molécules d'ADN et d'ARN, et également des données d'imagerie, pour mieux comprendre en fait comment sont distribués les différents organismes planctoniques, parce qu'on le mentionnait tout à l'heure, où là, Eric l'a mentionné, ça regroupe des organismes très petits, mais aussi des beaucoup plus grands. Et en particulier, on parlait de l'imagerie. Les capteurs développés pour l'imagerie in situ permettent maintenant de voir des organismes qu'on ne pouvait pas voir auparavant.
Mais est-ce qu'on pourrait, pardon, pour que tout le monde soit bien clair dans sa tête, faire une sorte d'image, une photo de famille, de la famille plancton? Il y a quoi dans le plancton, Hervé Claustre?
Le plancton, ça va du virus à la bactérie, aux petits crustacés dont on parlera peut-être tout à l'heure, jusqu'à des méduses qui peuvent faire un mètre ou deux mètres de diamètre, ou d'autres rubans gélatineux qui peuvent faire plusieurs dizaines de mètres.
Et ça, c'est encore du plancton.
C'est du plancton parce que, par définition, ça flotte au gré des courants. Ouais.
Donc c'est pas que microscopiste, c'est pas ça qui définit tant le plancton que le fait justement de se laisser aller par le courant.
C'est tout à fait, donc c'est un côté très passif. Le plancton se trouve transporté par les courants et après il faut être dans des conditions favorables pour la croissance pour qu'il se trouve là.
Alors une question de Julien sur franceinter.fr qui voudrait savoir si on peut anticiper ou modéliser l'évolution du plancton justement.
Alors
tous
peut,
les planctons. Alors
on peut essayer de prédire les changements de distribution, par exemple. C'est ce qu'on a essayé de faire, par exemple, en Méditerranée, c'est de comprendre comment la diversité des organismes planctoniques en Méditerranée pouvait être affectée par le changement climatique. Donc, on peut faire des prédictions de distribution d'espèces. On peut aussi, effectivement, modéliser l'évolution plutôt des planctons tout petits, hein, parce que l'évolution, donc le fait que les organismes s'adaptent à leur environnement, ça, c'est l'échelle de plusieurs générations. Donc là, on parle de temps beaucoup plus long. Et on peut aussi donc prédire, grâce au scénario du GIEC en particulier, quel va être l'environnement des organismes planctoniques dans 50 ans, 100 ans.
Lionel Guidi, alors vous avez reçu quand même, je le signale, la médaille de bronze du CNRS en 2018 pour vos travaux sur les organismes planctoniques impliqués dans le rôle de pompe biologique de l'océan. Ça veut dire quoi très exactement ça?
La difficulté justement, c'est que le plancton était déjà bien connu avant qu'on travaille dessus dans Tara Océan, mais on n'avait pas une cartographie complète des organismes présents et impliqués dans différents cycles. Donc ce qu'on a essayé de faire, de mettre ensemble, c'est cette cartographie, donc ce Facebook du plancton, et ça revient à ce que disait Sakina, c'est que pour mieux prédire les évolutions futures avec le changement climatique, etc., il faut déjà bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, et donc d'en avoir une bonne représentation. Et une bonne représentation, ça passe par une représentation de la complexité du système et donc de la totalité des organismes présents, de leur interaction et de l'impact de l'environnement sur eux et vice versa. Donc c'est ce qu'on a essayé de mettre en place. En fait, c'est des outils qui nous permettent de modéliser l'évolution du système dans le temps et dans l'espace.
Et alors sur l'idée de la pompe à carbone, justement, vous avez fait des découvertes là-dessus ou pas?
Oui, quelques découvertes. Ce qu'on a mis en évidence en grande partie dans cette étude, c'est qu'il y avait des organismes qu'on savait existants, présents, mais qu'on pensait pas être impliqués dans la pompe biologique. En particulier, on a mis en évidence comment on a pu relier virus, prokaryotes, eucaryotes, donc virus, bactéries et puis des organismes un peu plus grands, pluricellulaires. On a pu mettre en évidence que potentiellement certains virus reliés à des bactéries pouvaient avoir un rôle assez important dans le cycle du carbone, en particulier pour accélérer la vitesse de chute des particules ou au contraire la ralentir et favoriser la dégradation de la matière en surface et donc la remise du CO2 dans l'atmosphère.
C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure avec finalement cette pompe qui sert à séquestrer le carbone justement de l'océan et les petites crottes de plancton dont nous parlait
fécales.
Hervé Claustre, les petites crottes voilà qui tombent sur le plancher océanique, c'est bien ça Lionel Guidi?
Ouais, c'est bien ça. On passe notre temps à regarder des pelotes fécales qui sédimentent.
Ah, mais c'est passionnant.
Oui, c'est ça.
Hervé Claustre, les changements de température, donc évidemment, c'est déjà une réalité dans l'océan mondial. Un degré de plus ou de moins, ça change complètement la configuration de cet écosystème.
Ben, ça peut justement le changer dans la façon où ça sépare la couche de surface de la couche profonde. C'est ce qu'on appelle la stratification. Donc, et cette barrière, c'est une barrière. Je reviens toujours dessus au fertilisant. Donc plus ça va se réchauffer en surface et donc cette barrière va devenir de plus en plus grosse, plus importante.
Mais ce n'est qu'une histoire de température, il y a aussi le paramètre malheureux aussi de l'acidification des océans.
Alors il y a le paramètre malheureux de l'acidification des océans parce que parmi ces organismes planctoniques, il y en a qui forment des coques calcaires. Les falaises d'Étretat, ce n'est que le résultat de l'accumulation de coccolithes, de coccolithophoridés qui sont toujours dans l'océan aujourd'hui. L'acidification fragilise ces plaques calcaires. Et donc, les enjeux actuels de nos recherches, c'est de faire, comme disait Lionel, une sorte d'état zéro de ce qui se passe. Et maintenant, on a la possibilité de faire l'état zéro de la pompe biologique de carbone et de comprendre quels sont les mécanismes qui vont être modifiés de l'environnement. Est-ce que l'acidification va impacter? Est-ce que le changement de température va impacter? est-ce que la perte d'oxygène de l'océan va impacter ? C'est tous ces ingrédients-là environnementaux qu'il faut comprendre.
Alors justement, imaginons le scénario avec 1,5 degré, 2 degrés de plus sur précisément l'oxygène que produit le plancton. Je rappelle que vous nous le disiez tout à l'heure, la moitié de l'oxygène sur Terre est produit par le plancton. Est-ce que justement, Sakina Dorothée Ayata, ça peut vraiment modifier cet apport en oxygène ou pas ? Le fait d'avoir une température plus importante ?
Alors effectivement, en raison de cette stratification plus importante, d'ailleurs ce que l'on sait déjà, c'est que les modèles qu'on utilise pour le GIEC, pour faire des prédictions climatiques, on sait déjà que même s'ils sont capables de prédire une diminution du contenu en oxygène de l'océan, ils vont le sous-estimer. Parce que grâce aux données qu'on a pu collecter les 20 dernières années, on a pu constater en général une diminution de 2% de contenu d'oxygène de l'océan, en particulier de l'océan profond qui nous intéresse aujourd'hui. Et les modèles du GIEC, eux, ils prédisent une diminution de seulement 0,6%. Ouais. Donc là, ce que ça nous indique, c'est que nos modèles, ils ont besoin d'être améliorés. Une des manières de faire ça, c'est d'incorporer davantage de connaissances sur les processus, les mécanismes qui sont en jeu.
Et on peut imaginer des effets en cascade ?
Alors tout à fait, parce que effectivement, quand on va modifier un paramètre du système, c'est plusieurs éléments qui vont être perturbés. Ça reste des écosystèmes très complexes, il y a beaucoup d'interactions, beaucoup d'organismes qui interviennent. Et donc, plus on va accumuler de la donnée, plus on va être capable de mieux comprendre ce qui se passe, et donc mieux capable de prédire aussi ce qui pourrait se passer dans le futur.
Donc Lionel Guidi, c'est là qu'aussi interviennent les intelligences artificielles pour vous aider à faire le tri dans toutes ces données et à pouvoir établir quelques scénarios pour le futur ? Lionel Guidi.
Aujourd'hui, ça intervient un peu à tous les niveaux. Donc, il y a la première partie de l'intelligence artificielle, c'est de mettre des informations sur des données, donc de rajouter de la connaissance. Et par exemple, sur les images, on a besoin de savoir quels sont les planctons imagés. Donc ça fait partie de l'intelligence artificielle pour annoter ces images. Et ensuite, c'est effectivement le tri de l'information. Donc on est comme le disait Sakina, on est face à des systèmes très complexes où il y a beaucoup d'interactions, tout est connecté, et pour retirer de l'information de ces systèmes complexes, on utilise des méthodes en intelligence artificielle, en machine learning, pour pouvoir réduire le système l'information complexe à quelque chose qu'on est capable de digérer et de comprendre.
Si vous aviez envie d'adopter un robot justement sous-marin, eh bien restez avec nous parce qu'on vous dira comment faire dans un instant. C'est notre invité Hervé Clostre qui nous permet d'adopter un flotte. Ce sera dans un instant.
Petite guitare. On est un peu jaloux qu'ils arrivent avant nous, mais on les laisse passer dans les embouteillages quand les motards te font merci avec les pieds, merci avec les pieds. Ce ne sont pas des êtres humains, mais une espèce de Martien terrien. Ils ne connaissent pas la langue des mains. Ils vont les voir foncer, libre comme l'air, heureux comme des goélands. Ils ont l'air épanouis, à casque sur la tête et à leurs mains, des gants. Ils font tout sur leur moto, mais la seule chose qu'ils ne pourront pas, c'est dormir en roulant, sinon le drap s'envolera, tu comprends ? Dans les embouteillages, tu penses autant coûtant, où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents. Les arlées à crédit, les japonaises débridées passent entre les camions citernés, les 4L de pompiers. Les filles sont en voiture, contrairement aux motards qui sont en moto. Bien qu'il y ait les filles en moto, mais sous leur cuir on ne les voit pas bien, on ne voit pas leurs seins. Surtout que sous un casque on peut pas deviner si c'est un vieux hippie, un vieux skinhead ou une pure beauté. Si par hasard dans un embouteillage tu croises la femme de ta vie, mais assis à côté d'elle il y a déjà un petit mari barbu mais gentil. Remballe ton sourire de vôtre, tourne la tête pour ne pas avoir l'air idiot, et fais semblant de réparer ta radio, de redresser ton rétro. Remballe ton sourire de vôtre, tourne la tête pour ne pas avoir l'air idiot, et fais semblant de réparer ta radio, de redresser ton rétro. Alright. Dans les embouteillages, tu penses autant qu'autant, où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents. Les arts, les accrédits, les japonaises débridées passent entre les camions citernés, les 4L. Dans les embouteillages, tu penses autant qu'autant, où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents. Les arlées à crédit, les japonaises débridées passent entre les camions citernes et les 4L de pompiers, virgule. Quand les filles se maquillent dans les rétroviseurs, moi j'ai même pas peur qu'elles oublient de freiner les routiers du haut de leur cabine, les traitent de femmes au volant, mais en secret ils aimeraient bien les emmener. Amoureux des sirènes, les ambulanciers sont les marins des départementales. Salauds de séducteurs, ils ont une infirmière dans chaque hôpital. Ils collectionnent les filles, ils multiplient les aventures, et leur spécialité, c'est l'amour en voiture. Sais-tu qu'il y a des infirmiers qui soignent les blessés en leur mettant des disques et des cassettes, la musicothérapie au service de la fracture ouverte. Pour un limbago, Nougaro, alors Django, une jambe cassée, ACDC, et c'est soigné. Dans les embouteillages, tu
tu penses autant, autant que dans. Où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents. Les arrêts à crédit, les japonaises débridées passent entre les camions citernes et les 4L. Dans les embouteillages, tu penses autant, autant que dans. Où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents. Les arrêts à crédit, les japonaises débridées passent entre les camions citernes et les 4L.
Les embouteillages, San Severino.
France Inter. La Terre au carré.
Le plancton est la base de la chaîne alimentaire et de l'écosystème marin. Les plaisanciers mobilisés sont très motivés par la défense de cet environnement.
Quand on voit dans une goutte d'eau tous les petits éléments qu'il y a, les gens, quand ils se baignent, quand ils prennent une tasse, ils seraient étonnés de voir tout ce qu'ils avalent.
Vous avez certainement avalé du plancton sans le savoir. Yvon Le Guerne, plaisancier, extrait d'un reportage sur France 3 autour de l'objectif plancton. C'est un programme de recherche là aussi. Alors, comment on peut adopter un flotteur?
Non, pas un plancton. Mais...
Hervé Clostre.
Ben en fait, c'est un projet éducatif qu'on a mis au-dessus de nos projets scientifiques où une classe accompagnée par leurs enseignants, ou leurs enseignants peut adopter un flotteur, se l'approprier, faire un logo qu'on va coller sur le flotteur avant de le déployer, et puis ils vont le suivre durant le voyage scientifique, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que ce robot, tous les 10 jours, il envoie ses données.
Ouais.
Donc on a l'information en temps réel qui peut arriver chez nous scientifiques, mais en même temps, on la distribue dans les classes qui sont adoptantes.
Avec des images, vidéos, ouais.
Comment ?
Il y aura des images, des vidéos ?
Il y a des images de déploiement du flotteur. Et puis surtout, on a mis en place une façon de regarder les données avec les enseignants pour que les élèves en tirent
comment
profit.
Comment on candidate alors ?
Ben, vous allez sur le site adopteflotte.com.
Adopteflotte ?
Oui, adopter le flotteur, c'est la traduction anglaise, parce qu'on essaye d'internationaliser le programme.
Et d'accord. C'est pour les enfants de quel âge à peu près ?
Alors ça concerne aussi bien le primaire que le collège.
Très bien monsieur, eh bien, nous le mettrons en lien sur le site de la Terre au carré. Et pour terminer, j'aimerais quand même que vous nous parliez du Copépod, puisque c'est votre copain, Sakina Dorothée Ayata, en tout cas l'un de vos meilleurs amis.
Oui, puis on parlait des enfants, peut-être que certains regardent Bob l'éponge, il y a un petit personnage qui s'appelle Sheldon Plankton.
Oui.
Ce petit personnage, en fait, c'est un copépode, c'est des petits crustacés. On considère généralement que c'est potentiellement l'animal le plus abondant sur la planète en termes de biomasse, en termes d'individus. Et effectivement, moi j'étudie les copépodes et ils ont un rôle important dans la pompe à carbone. Bah, effectivement, on en a parlé, leur pelote fécale ou leur caca.
Ouais.
Également, ce sont des organismes qui font des mues, des petits crustacés qui font des mues. Donc leur carcasse sédimente également à chaque mue. Et puis, il existe aussi ces espèces de très gros copépodes dans l'océan Arctique qui vont faire des migrations également en fonction de la saison, qui ont des grosses réserves lipidiques qui vont sédimenter vers le fond, où là, ils vont passer tout l'hiver, en diapause, en fait, en dormance, et ils vont respirer tranquillement leurs ressources lipidiques, et ça va à nouveau libérer du CO2 en profondeur et contribuer à l'export du carbone.
Et comment on devient spécialiste escopépode?
Un peu par
dans
hasard.
Dans les dîners, ça doit faire son petit effet.
Mais c'est très joli, en fait. Moi, ce qui m'a amené
c'est
au plancton...
C'est un cousin de la crevette, hein, c'est
oui,
ça.
Oui, c'est
hein.
ça, c'est un petit ouais. crustacé, cousin de la crevette, du krill que mangent les baleines. Moi, ce qui m'a amené au plancton, c'est le côté très beau, très joli. Pour tout vous dire, je fais ma thèse moi sur des larves planctoniques de vers de vase, pas du tout sexy, mais très très belle, très très belle. Au microscope, c'est iridescent, il y a des soies, des ombelles, c'est magnifique. Moi, c'est comme ça que j'y suis arrivée.
Bon, Lionel Guidi, vous faites des rêves de plancton vous la nuit ou pas?
Oui. Des rêves, des cauchemars, ça dépend. Pour revenir, c'est très beau, mais certains ont inspiré des films tels que Alien aussi.
Ouais.
L'Afronyme, par exemple, c'est le portrait craché de d'Alien. Donc voilà, oui, voilà. C'est
le monde aussi
plancton, c'est un monde magique.
Et des horreurs aussi de temps en temps. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'être venus nous en parler. C'est... Donc on suit votre expédition à partir du mois de mai et puis ensuite elle va se déployer, on le disait, dans les océans du globe. Merci beaucoup et bonne recherche à vous.